Chapitre 8. Vers la fin de l'hiver, une pneumonie emporta le chevalier Campestri. Sa veuve et sa fille restaient sans ressources. Silvio se montra extrêmement généreux en cette circonstance. Après avoir, avec sa femme, assisté avec le plus grand dévouement Don Alberto à son lit de mort, il pourvut largement aux besoins de Donna Maria et de Checa et leur demanda de continuer d'habiter la maison qu'il achetait. Ginevra put apprécier, une fois de plus, cette bonté discrète dont il avait déjà donné des preuves. Et elle savait que tout cela, dont Paolo le lui avait laissé comprendre, il le faisait pour elle parce qu'il n'ignorait pas combien elle aimait sa jeune sœur. Comme un jour, elle lui exprimait sa reconnaissance, il l'interrompit vivement. « Oh, je vous en prie, je voudrais faire plus, beaucoup plus. » Ils étaient debout dans le cabinet du défunt, où tous deux venaient de faire le classement des papiers. Ginevra, dans sa robe de deuil, était admirablement belle. La lumière du couchant l'enveloppait d'une clarté pâle, sous laquelle palpitait l'épiderme ambré, à peine teinté de rose. Les paupières s'abaissaient légèrement et les cils longs battaient sur les yeux émus où tant de vie profonde se révélait depuis quelque temps. La jeune femme ne releva pas les paroles de Silvio. Elle n'y vit que la confirmation de ce qu'elle croyait déjà, c'est-à-dire qu'il l'entourait de soins, d'attention, pour compenser l'amour qu'il ne pouvait lui donner. Et sa bonté pour la famille de sa femme venait encore du même secret désir de réparation. Ottavio, le frère de Ginevra, qui occupait au ministère des Finances un modeste emploi, avait reçu récemment un avancement inespéré grâce à la recommandation de son beau-frère. Pour Checa, Silvio avait laissé entendre un jour qu'il ferait au moment voulu tout le nécessaire pécuniairement pour faciliter son mariage. Ainsi, Ginevra se trouvait amenée à lui être profondément reconnaissante. Et son amour pour lui s'augmentait de toute l'estime que lui inspirait cette nature élevée d'une si haute droiture. Car elle ne pouvait lui reprocher son infidélité à son égard. Lui-même avait voulu que la comtesse Riesini la prévînt qu'il n'aimerait jamais une autre femme qu'Hélène. Elle avait accepté en connaissance de cause. L'erreur ne devait être imputée qu'à elle seule, qui ne se doutait pas, à ce moment, des conséquences pouvant sortir de cet état de choses. Un soir de mai, Silvio, en finissant la lecture de poèmes français qu'il faisait à sa femme, dans le petit salon de l'appartement de Ginevra, dit tranquillement « Je vais me décider, je crois, à répondre à l'invitation de mon ami Serveuil en allant passer chez lui une quinzaine de jours. » Le long crochet d'ivoire que maniaient les doigts agiles de la jeune femme fut arrêté dans son mouvement. Des yeux surpris se levèrent sur le marquis Orcella. « Vous voulez aller en France ?»« Oui, j'aime mieux faire ce voyage maintenant que plus tard. Votre santé est bonne en ce moment, celle de mon père traverse une meilleure phase. D'autre part, Serveuil m'a déjà invité à plusieurs reprises et j'ai toujours répondu par un refus. Cette fois, il prend pour prétexte la première communion de son fils dont je suis le parrain. Il est difficile de refuser, n'est-ce pas ?»«
Un peu difficile, en effet. »
Les doigts effilés s'agitaient autour du crochet, le regard mélancolique se baissa sur l'ouvrage de laine blanche qui commençait à prendre la forme d'une petite brassière. Ginevra pensa « Il sera délivré de ma présence et il va retrouver là-bas tous ses chers souvenirs. » Quelques minutes de silence passèrent. La main nerveuse de Silvio feuilletait machinalement le volume qu'elle avait refermé tout à l'heure. Ginevra recommençait de manier son crochet, lentement, comme si une fatigue s'était abattue sur elle tout à coup. Puis Silvio dit avec douceur, en hésitant un peu, « Cependant, si ce voyage vous déplaisait en ce moment, je suis tout prêt à le remettre à une autre date. Il faut me le dire franchement, Ginevra. » Elle répondit, sans interrompre son travail, « Mais non, mon ami, ne changez rien à vos projets. » « Certes, votre absence me semblera toujours longue, mais vous avez raison, il vaut mieux que vous la fassiez maintenant, de toute façon. »« Eh bien, je m'arrangerai pour partir dans 3 jours. » Elle allait dire « Si tôt !» Mais elle retint ses mots. Elle voulait s'habituer à son indifférence et essayer de l'imiter. Après tout, il devait être possible de vivre ensemble sans amour.
Il suffisait d'avoir l'un pour l'autre beaucoup d'estime, de la sympathie, même un peu d'affection, que fortifierait l'habitude. Il pourrait avec cela se trouver très heureux, en comparaison de tant d'autres ménages où l'amour avait si vite fait place à la désunion et quelquefois à la haine. En dépit de ce raisonnement, Ginevra ne dormit pas la nuit qui précéda le départ de Silvio. Quand il prit congé d'elle, dans la matinée, il remarqua aussitôt sa mine fatiguée, l'éclat fiévreux de son regard. « Qu'avez-vous ? Êtes-vous souffrante ?» Il attachait sur la jeune femme un regard où se discernait une inquiétude qui cherchait à se contenir. Elle essaya de sourire en répondant « Mais non, une mauvaise nuit seulement. Demain, après quelques heures de bon sommeil, il n'y paraîtra plus. » « Soignez-vous bien, surtout. Dites-moi dans vos lettres comment vous vous trouvez. » Son bras entoura les épaules de Ginevra, ses lèvres effleurèrent le front penché, puis s'y appuyèrent plus longuement que jamais encore elle ne l'avait fait. « Et si, pour une raison ou pour une autre, vous désirez que je revienne plus tôt, ne craignez pas de me le dire. » Elle frissonna entre ses bras. Son visage était glacé. Mais elle tenait ses paupières baissées pour qu'il ne vît pas la supplication de son regard, le grand amour douloureux qui devait s'y refléter. La voix de Silvio ajouta, plus bas, avec une hésitation marquée, « Si vous aimez mieux que je ne parte pas... » En même temps, ses lèvres s'éloignaient du front de la jeune femme et son bras retomba. Ginevra dit d'un ton assourdi, « Mais si, partez, cela vous distraira, vous fera du bien. » Mais ne tardez pas trop à revenir. » Ses paupières se levaient. Elle rencontra le regard de Silvio où semblait demeurer le reflet d'une grande lueur ardente, maintenant presque éteinte ou voilée par l'habituelle froideur. Car sa voix avait repris le ton accoutumé quand il dit en serrant une dernière fois la main de Ginevra avant de monter en automobile « 15 jours au maximum et je vous donnerai souvent de mes nouvelles. » Ginevra regarda s'éloigner la voiture. Toute l'amertume de sa souffrance lui remonta au cœur en 7 minutes. Elle avait l'impression qu'il la fuyait. Ainsi, elle lui était odieuse à ce point. Cette courtoise amabilité de gentilhomme, cet empressement à satisfaire ses désirs avant qu'ils fussent exprimés, n'était bien qu'un masque chez cet homme tout épris d'une autre, un masque qu'il voulait enlever de temps à autre, loin de celle qui avait remplacé son Hélène bien-aimée. À pas lents, Ginevra remonta vers son appartement. Elle s'assit dans son petit salon en jetant un coup d'œil mélancolique sur le fauteuil où, chaque soir, depuis quelque temps, Silvio s'asseyait pour lui faire la lecture. En apparence, il présentait l'image de l'union conjugale la plus complète. Personne ne voyait celle qui était entre eux, qui volait à Ginevra l'amour de Silvio. Qui eût pensé, vraiment, que cette morte pût être une rivale dangereuse pour la belle jeune femme que tous les hommes enviaient au marquis Orchiella? Cela était, cependant. Ginevra savait que son mari continuait de se rendre chaque matin à la chapelle, où lui-même disposait les roses que le jardinier avait ordre de déposer au dehors. Elle savait que le portrait d'Hélène était toujours là, avec son offrande de fleurs, dans la chambre close, où Silvio conservait son parfum préféré et sans doute tous les souvenirs de sa première femme. Elle était certaine aussi qu'il allait revivre en France son court bonheur, se repaître de la joie terrible des réminiscences dans les lieux où ils avaient vécu ensemble, où ils s'étaient aimés. Et cette pensée déchirait le cœur de Ginevra. Elle déjeuna seule avec son beau-père. Don Paolo semblait fort mécontent du départ de son fils, dont, comme Ginevra, il craignait de deviner la véritable raison. Il se montra plus que jamais paternellement bon à l'égard de la jeune femme et essaya de la distraire, mais vainement. Après le repas, il prit son bras et tous deux passèrent sur la terrasse. Ginevra approcha du fauteuil de son beau-père la petite table où se trouvait son service de fumeur et s'assit près de lui. Don Paolo, tout en allumant un cigare, suivait des yeux le mouvement alangui des jolies mains aristocratiques qui cherchaient un ouvrage dans une corbeille. Il dit avec douceur « Ma chère enfant, vous semblez vraiment fatiguée aujourd'hui. À mon avis, vous devriez vous reposer sur votre chaise longue. » Oh, c'est inutile. Je suis très bien ici et une bonne nuit me remettra tout à fait. »
Tout en parlant, elle sortait de la corbeille une broderie sur tulle et l'étendait sur ses genoux.
« Oui, à la condition que ce soit vraiment une bonne nuit. Mais je crains que vous vous tourmentiez beaucoup. »
Il se pencha et prit la main de la jeune femme en attachant sur le visage pâli son regard pénétrant, tout attendri par une affectueuse compassion.
« Je ne vous ai jamais parlé de cela, Ginevra. Il est toujours délicat de se mettre entière dans un jeune ménage, et puis je pensais que vous auriez vite fait de lui enlever le souvenir de l'autre. Mais je me doute que vous souffrez, qu'il vous fait souffrir, sans le savoir, oh, bien certainement. Mais cette Hélène, il ne l'oublie pas, et vous le sentez, n'est-ce pas ?»
Les lèvres de Ginevra tremblèrent en répondant
« Oui, je le sens, et je souffre, vous le dites bien, je souffre tant !»
Elle ferma un instant les paupières, mais Don Paolo avait eu le temps de voir passer dans son regard l'expression d'une douleur ardente et résignée.
« Pauvre petite, pauvre petite !»
Ses doigts pressaient la main qui était froide en dépit de la tiédeur de l'air. Ginevra murmura
« Vous êtes très bon !» « Votre affection m'aide beaucoup, je vous assure, à supporter cette épreuve. »«
Une épreuve qui ne durera pas toujours, Ginevra. Vous verrez qu'un jour, Silvio sera tout à vous. » Elle secoua la tête.
« Non, je ne l'espère plus. Il m'en veut d'être celle qui remplace son Hélène. Il supporte ma présence avec une impatiente secrète qui ne m'a jamais montrée, mais que je devine trop bien. »«
Ginevra, vous exagérez. »
« Non pas, et je suis certaine que c'est là aussi votre idée. »
Il nia faiblement. Au fond, il craignait qu'elle eût raison. L'attitude de son fils le déroutait. Si tendrement que lui-même eût aimé sa femme, il ne comprenait pas que Silvio restât insensible au charme rare de Ginevra et qu'il ne pût concilier le souvenir ému gardé à sa première épouse avec l'amour pour la seconde.
« Je ne sais vraiment à quoi il pense, Ginevra. » Cette morte le tient encore, c'est vrai. Ils se sont beaucoup aimés et mon pauvre enfant a souffert atrocement quand cette petite Hélène lui fut enlevée. Elle avait une nature séduisante, très gaie, tendre, un peu coquette. J'ai toujours pensé qu'elle n'avait pas de qualité bien profonde et que Silvio, après les premières années d'enivrement, aurait eu quelques désillusions. Mais il n'a connu d'elle que son charme, que son amour. Et sans doute, après qu'elle eût disparu, l'a-t-il auréolé encore de toutes les vertus, de toutes les beautés idéales, ainsi que nous en avons coutume, parfois, à l'égard de nos morts. Hélène était son premier amour, et mon fils est de ceux qui se donnent difficilement, mais jamais à demi. » Les doigts de Ginevra frôlaient machinalement le tulle qui glissait sur le lainage noir de sa robe. La tête brune se penchait comme accablée. Don Paolo reprit, après un court silence, « Ce mariage m'avait déplu. Je n'accordais mon consentement qu'à contre-cœur. Madame Duvivier n'appartenait pas à notre monde. Je dois reconnaître qu'elle était bien élevée, quoique toutefois d'allures un peu émancipées. Il est vrai que je suis d'un autre temps. Comme elle semblait fort éprise de Silvio, il aurait peut-être changé ce charmant oiseau rieur, cette élégante petite mondaine en une femme sérieuse, simple et pieuse, telle que le fut ma chère Bianca. Oui, peut-être. » Il eut un jeu de physionomie qui signifiait clairement « Mais je n'y comptais guère. » Le regard de Ginevra suivait machinalement les ébats d'un couple de merles dans la lumière ombrée d'une allée. La jeune femme se taisait en écoutant la voix émue qui lui parlait de l'autre, qui la montrait si banale en somme. Une jolie femme, mondaine, coquette, gentiment tendre sans doute, et que l'amour de Silvio avait paré de qualités idéales qu'elle ne possédait pas. Ginevra songea tout haut. Elle était très charmeuse, on le voit dans son portrait. Sa beauté devait être remarquable. Pas plus que la vôtre, mais elle était toute différente. Don Paolo ajouta, en posant ses doigts sur la main de sa belle-fille, elle n'avait pas ce signe de race, par exemple, ces attaches délicates qui attestent votre origine patricienne. Ginevra eut un léger mouvement d'épaule en murmurant avec un sourire mélancolique « Silvio n'a probablement pas même remarqué cela. » Détrompez-vous, il m'a dit un jour, Ginevra a des mains admirables. Croyez-moi, mon enfant, il vous rendra justice, il comprendra combien vous êtes infiniment supérieur à cette pauvre Hélène, non pas seulement au point de vue physique, mais surtout pour l'élévation morale, pour l'intelligence, pour tout. De nouveau, elle secoua la tête. Non, je ne le crois pas. Je sens que je lui suis à charge. Pendant 15 jours, il va se trouver plus à l'aise. Il pourra revoir tous ces lieux où ils ont passé ensemble, s'enivrer de tous ses souvenirs, oublier pendant quelques instants qu'il s'est uni à moi. Puis il reviendra, l'esprit et le cœur plus remplis que jamais de son image. Et il faudra que je voie encore ses yeux se détourner de moi, comme il le faisait si souvent depuis quelque temps. Il faudra que je supporte ses visites quotidiennes à cette tombe, où il va sans doute lui crier les mots d'amour qu'il ne m'a jamais dit à moi, sa femme vivante. » Elle parlait à mi-voix, d'un ton de douleur profonde, passionnée. La souffrance cachée se montrait enfin, s'échappait irrésistiblement en cette minute d'expansion. Le bleu foncé de ses yeux s'éclairait d'une lueur ardente qui frappa Don Paolo, qui lui fit penser aussitôt « Mais elle aime passionnément son mari, cette pauvre enfant. Elle l'aime bien plus que je ne le croyais. » Ginevra continuait, de la même voix basse qui se brisait un peu « Je comprends les souffrances d'une épouse trahie. J'en éprouve quelque chose. Moi, on me délaisse pour une morte. Mais je n'ai rien à dire, j'ai été prévenue loyalement. Aussi, ne puis-je lui adresser aucun reproche. C'était à moi de refuser. J'ai accepté en connaissance de cause, et lui a rempli tous les engagements qu'il avait pris. » Elle se tut en croisant ses mains sur le tulle qu'elle venait de froisser nerveusement. Ses yeux tristes et résignés regardaient droit devant eux dans la lumière chaude où s'agitait l'ombre des feuillages. Une brise toute parfumée de la senteur des roses passait sur la terrasse et fleurait le crâne dégarni de Don Paolo, les cheveux bruns de Ginevra. La jeune femme décroisa ses mains et les joignit en disant tout bas « Mais je ne pensais pas alors qu'une morte pût être si terrible. »